Bonjour à tous. Et le Dieu de victoire habite en nous. Est-ce que tu crois ce matin que le Dieu de victoire habite en toi? Denis a terminé son introduction en disant, voilà, on était appelés à être des adorateurs en esprit et en vérité. Et ce matin, j'ai personnellement à cœur que l'on puisse vraiment vivre cela, que l'on puisse se mettre à disposition de cela, que l'on puisse vivre cette adoration. Et c'est pour ça que j'ai demandé au groupe de louanges de pouvoir faire la louange plutôt après le message. Je vais juste prier pour qu'on puisse laisser la place à ce Dieu de victoire qui habite en nous. Qu'on puisse fermer les yeux si on le souhaite et tout simplement se concentrer sur le Seigneur qui est là avec nous. Merci Seigneur parce que tu es présent. Seigneur, nous avons à cœur de célébrer ta présence, de célébrer ta personne dans ce culte, Seigneur, de cultiver cette relation que nous avons avec toi, cette relation que tu nous donnes, que des personnes parmi nous qui peut-être te connaissent pas puissent entrer dans cette relation avec toi que tu offres. Merci pour ce Dieu merveilleux que tu es. Amen. Alors, on va commencer ce message par un petit film. Bon, c'est en allemand pour ceux qui veulent réviser. Sans amour, il n'y a pas de fête. Tu peux arrêter là, on ne fait pas de pub. Voilà. Ça, c'est le titre. Être ou ne pas être une intelligence artificielle. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler d'intelligence artificielle. Avec finalement tout ce que ça soulève, ça peut soulever. Enfin, c'est mignon de voir ça, hein. Bon. Il y en a qui en rêvent. Finalement, l'intelligence artificielle, ça soulève plein de choses, autant des peurs, des craintes. L'idée de l'intelligence artificielle, c'est que ça puisse de plus en plus imiter l'être humain, imiter le fonctionnement de l'être humain. Alors, à la fois, ça soulève des peurs, parce qu'on se demande, mais et si les machines comme ça, elles sont de plus en plus perfectionnées, qu'est-ce que ça va, nous, qu'est-ce qui va nous arriver? Et puis en même temps, ça soulève chez certains des rêves, des désirs, justement, de pouvoir imiter l'être humain le plus possible. Il y en a même qui pensent que d'ici entre 5 et 50 ans, il y aura des machines conscientes, comme on a vu là, hein. Donc il y en a qui ont ce rêve-là. Alors, dans quelle mesure ce serait possible? Un spécialiste de l'intelligence artificielle vous expliquera que voilà, l'intelligence artificielle, c'est une série de ce qu'on appelle des algorithmes. Donc c'est des programmes, en fait, qui font que la machine peut faire certaines tâches, mais si c'est si vous la programmez pour faire ces tâches. Mais finalement, tout ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle, ça nous ramène à une question. Qu'est-ce qui fait qu'on est un être humain? Qu'est-ce qui fait qu'on est un être humain? Et dans quelle mesure, finalement, l'intelligence artificielle, ça pourrait vraiment imiter ce qu'est l'être humain? Pour vous, qu'est-ce qui fait qu'on est un être humain? Nos émotions? On est conscient, on est rationnel, l'amour. Et j'ai entendu l'esprit aussi. Effectivement, ce qui fait qu'on est un être humain, et ça, on le sait quand on a renoué avec Dieu particulièrement, ce qui fait qu'on est un être humain, c'est pas seulement qu'on a un corps. Quelque part, les machines, elles ont une sorte de corps. Ce n'est pas seulement qu'on a une âme. Bah, les machines, elles peuvent penser, on l'a vu. Les animaux, hein, ils ont un corps, ils ont aussi une forme de pensée, ils ont des formes d'émotion. Mais c'est ce qui fait qu'on a un esprit. Et le fait qu'on a un esprit, bah, ça fait qu'on peut avoir du bon sens. Ça fait qu'on peut avoir de l'humour. Ça fait qu'on peut aimer. Ça fait qu'on peut être créatif. Et tout ça, dans quelle mesure une machine, elle peut le vivre? Elle peut peut-être l'imiter, on peut même imiter des émotions. Mais voilà, il faut le ressentir. Et tout ça, c'est parce qu'on a l'esprit, qu'on a un esprit en nous qu'on peut le faire. Mais finalement, si on était sans esprit, ben on ne serait pas loin d'une intelligence artificielle, en fait. On serait pas loin d'une intelligence artificielle. Et c'est le fait d'avoir un esprit qui fait de nous des êtres humains. Mais la Bible, en même temps, nous dit que, à un moment, l'être humain s'est détourné de Dieu et que son esprit est mort. L'être humain a vécu une mort spirituelle. L'esprit est mort. Alors, on peut toujours avoir du bon sens, on peut toujours aimer, on peut toujours être créatif. Mais on ne peut plus l'être comme avant, ou on ne peut plus l'être comme on devrait l'être. On ne peut plus l'être, ou on ne peut pas l'être comme Jésus l'est. Jésus qui est l'image parfaite de Dieu. Jésus qui est l'homme de l'esprit par excellence. Jésus qui était rempli du Saint-Esprit. On ne peut plus l'être comme avant. En fait, pour vous donner une image, c'est comme si, c'est quoi l'esprit ? L'esprit, imaginez que ça, finalement, ça fasse partie de moi. Hein ? Voilà. L'esprit, c'est comme si on avait une prise de courant. C'est comme si on avait une prise de courant, et bon, là, il n'y a pas de prise, elle est par là, mais bon, imaginez qu'il y ait une prise, là. L'esprit, c'est comme si on avait une prise de courant. Et qui fait qu'on a... Et le courant, c'est quoi ? Ben, le courant, c'est Dieu. La source d'énergie, c'est Dieu. Attendez, attention, je ne suis pas en train de dire que Dieu, c'est une énergie ou une force ou ce genre de choses. Hein. On est d'accord, hein. Dieu, c'est quelqu'un. Hein. Dieu, c'est une personne. Mais voilà, la prise fait qu'on est relié à Dieu. Et il s'est passé quelque chose, c'est quand, finalement, l'humanité s'est détournée de Dieu parce qu'elle a écouté le serpent, qu'est-ce que a fait le serpent ? Qu'est-ce qu'on l'a laissé faire ? On l'a laissé débrancher la prise. Et du coup, on n'est plus relié à Dieu. Alors c'est comme si on avait toujours un petit peu d'énergie en nous, on a une sorte de batterie et puis on peut toujours aimer quand même, mais pas plus comme avant. Et Jésus, ce qu'il a fait, il est venu prendre la prise avec notre autorisation, il est venu prendre la prise et il a rebranché la prise. Et c'est ça l'esprit, la prise est branchée, on est connecté. Et disait, on a un corps, on a une âme, on a un esprit, et l'âme, ce n'est pas la même chose que l'esprit. L'âme, finalement, c'est ce avec quoi on pense, ce avec quoi on ressent des émotions, on éprouve des émotions. Et finalement, dans cette image-là, on pourrait dire que l'âme, c'est ce qui fait que l'on va appuyer sur la prise, pour que la prise, elle reste branchée, elle reste connectée. Vous savez, des fois, quand on enlève un petit peu une prise de courant, qu'on enlève de la prise, ça grésille un petit peu. Et puis, par exemple, s'il y a un appareil électrique qui va être branché, ça va plus ou moins s'éteindre. Hein. Si on enlève complètement, ça s'éteindra complètement. Finalement, notre âme, c'est ça. Notre âme, c'est ce par quoi, quand la prise elle a été rebranchée, c'est ce par quoi on laisse la prise branchée, on appuie sur la prise pour qu'elle reste branchée. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Parce que, voilà, on arrive dans la fin des temps. Les temps se précipitent et je crois qu'il y a urgence pour l'Église, justement, à vivre par l'Esprit, à vraiment vivre par l'Esprit, à retrouver cette dimension de l'Esprit, dans quelle mesure cette dimension de l'Esprit, elle est là ? Et dans quelle mesure, des fois, on n'est pas plutôt dans notre âme, dans nos émotions, dans nos pensées, et pas dans cette dimension de l'esprit. Et on est appelé à se réveiller, on est appelé à se réveiller et à être des hommes, des femmes de l'esprit. Et ce matin, je voudrais surtout vous parler d'une femme de l'esprit. Une femme de l'esprit qui, elle, a toujours été connectée. Et cette femme, c'est Marie. Marie qui, elle, a toujours été connectée, a toujours été branchée. Et je vous disais que l'âme, c'est ce par quoi on appuie sur la prise de courant, qui fait qu'on reste connecté à Dieu. On entend parler de Marie pour la première fois dans l'évangile de Luc. Alors, je ne vais pas vous lire le texte parce qu'il est assez long. Je ne sais pas si tous ici connaissent le texte, peut-être qu'il y en a parmi nous qui ne le connaissent pas, mais je vais juste le raconter comme ça. Marie est donc chez elle, et là, il y a l'ange Gabriel qui apparaît. L'ange Gabriel qui lui apparaît et qui lui annonce qu'elle va accueillir en elle Jésus, Yeshua, le Messie qui est attendu par Israël, le Messie qui vient pour l'humanité. Et vraiment, bien sûr, comment on peut s'y attendre, c'est surnaturel. Hein. Vous voyez un archange, en plus Gabriel c'est un archange, hein, c'est pas rien. Hein. C'est, Gabriel ça veut dire homme fort, guerrier de Dieu. Alors, donc ça a de quoi surprendre. Marie lui demande, mais comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que ça peut se passer puisque je n'ai pas connu d'homme? Je suis vierge. Et Gabriel lui dit, mais le Saint-Esprit va venir te couvrir. Et là, tu tomberas enceinte du Messie. Tu tomberas enceinte de Yeshua. Et d'ailleurs, tu as ta cousine qui est beaucoup plus âgée que Marie et qui n'est pas en âge d'enfanter, qui est tombée enceinte justement par l'action du Saint-Esprit. Alors, pas comme pour Marie. Mais voilà. Et donc, Marie est tellement enthousiaste qu'elle, du coup, tout de suite, elle part voir Élisabeth, sa cousine. Et là, quand elle se retrouve, Élisabeth, donc, qui est enceinte depuis 6 mois, dans son ventre, Jean-Baptiste est en train de tressaillir. Il bouge. Quand elle connecte avec Marie. Et donc là, il y a quelque chose qui est en train de se passer de fort. Et c'est tellement fort que Marie se met à chanter un cantique. Elle se met à avoir une proclamation, une prière envers Dieu, une prière de louange. Là, elle est vraiment dans quelque chose, un mouvement de l'esprit puissant, où elle dit toute sa reconnaissance à Dieu pour ce qu'il est en train de faire, non seulement en elle, mais ce qu'il est en train de faire pour l'humanité, ce qu'il est en train de faire pour nous. Qu'est-ce qui fait que Marie, elle a pu accueillir l'esprit comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'elle a pu être une terre d'accueil de l'esprit? Et j'aimerais qu'on parle de la manière dont Marie, elle a disposé son âme. Elle a disposé son âme pour pouvoir s'offrir à une œuvre de l'esprit, pour être ouverte à ce que l'esprit voulait faire en elle. On pourrait dire qu'il y a quatre attitudes par lesquelles Marie, elle dispose son âme pour pouvoir laisser l'esprit agir. La première chose, c'est qu'elle écoute son âme. Quand elle voit l'ange Gabriel qui lui dit tout ça, qui est surprenant, Marie dit, mais comment est-ce que cela, ça va se faire? Et elle se pose des questions, tout simplement. C'est surprenant, c'est surnaturel. Et on a le droit de se poser des questions. Marie, elle utilise sa raison, son cerveau, elle ose se poser des questions. Et Dieu, il aime qu'on se pose des questions. Il aime qu'on utilise notre intelligence. Et donc, Marie, elle se demande comment ça va se passer. Alors après, elle arrive très vite aux limites de son intelligence. Elle ne sait pas. Mais Marie, elle écoute son âme, elle ne nie pas son âme, elle nie pas ce qu'elle pense, elle nie pas ce qu'elle ressent, elle nie pas tout ce qu'elle éprouve. Elle écoute, au contraire, tout ce qui se passe. Alors, je vous donne le témoignage de Margot parce qu'elle ne souhaite pas le donner, donc je vais le faire moi-même. À un moment, Margot, elle était vraiment sous pression et avec les études, surtout pour l'allemand, parce que l'allemand, c'est pas trop ton truc. Et du coup, il fallait qu'elle ait une certaine note pour que ça aille dans sa moyenne, etc. Et elle était prise par ses peurs comme ça, et ça l'envahissait complètement par le stress. Puis on a partagé ensemble, et puis elle a pu, finalement, elle n'était pas vraiment à l'écoute de ce qui se passait en elle. Pourquoi elle avait ses peurs? De quoi avait-elle peur exactement? Et puis on a pu partager ensemble, elle a pu mettre des mots dessus. Et en même temps, voilà, Margot, finalement, elle réalisait ses limites aussi à pouvoir gérer le stress, à pouvoir ne pas avoir peur. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. Et je lui ai proposé, mais pourquoi au début de chaque examen, avant que tu aies ta feuille devant toi, avant que tu te mettes à répondre, tu prends quelques instants et tu te fixes sur le Seigneur. Tu focalises ton esprit sur le Seigneur, enfin tu focalises ton âme plutôt sur le Seigneur. Tu, Tu prends quelques instants et puis tu remets tout et il va être avec toi pour ce devoir. Et là, Margot, finalement, elle laissait la place, elle laissait la place à Dieu. Elle écoutait ce qui se passait en elle, mais pour laisser la place, tout en reconnaissant ses limites, hein, pour laisser la place au Seigneur qui, lui, voilà, dépasse nos limites. Donc, dans quelle mesure est-ce que vous prenez en compte ce que vous vivez, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Dans quelle mesure vous le soumettez à Dieu? Dans quelle mesure, quand vous avez des pensées qui vous travaillent, des choses qui vous gênent, par exemple, vous êtes dans la louange et puis il y a quelque chose, voilà. Dans quelle mesure, finalement, vous, plutôt que d'essayer de vous crisper, dans quelle mesure c'est, on laisse ça, on remet ça au Seigneur? On va devant Dieu avec cela et lui, on le laisse agir. C'est ce que Marie a fait et c'est ce que Margot, elle a fait. Margot, elle peut dire qu'effectivement, elle a commencé à sentir une différence. La deuxième attitude, c'est que Marie, elle fait confiance en Dieu et sa parole. Quand l'ange lui a dit tout ce qu'il a dit, bon, elle cherche plus à comprendre les choses justement par son intelligence. Ça sert à rien. Elle voit bien que c'est quelque chose qui la dépasse. Elle accepte tout simplement. Elle lui dit: Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Marie, elle choisit de croire en la parole. Elle choisit de croire ce que l'ange lui dit, que ça vient de Dieu. Et d'autant plus quand il lui parle d'Élisabeth. Élisabeth, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Élisabeth, ça veut dire Dieu du serment. Dieu du serment. Ça veut dire que l'ange est en train de lui dire, ben, Dieu, il tient ses promesses. Dieu, il tient ses promesses. Et Marie est prête à y croire. Elle croit que Dieu tient ses promesses. Est-ce que tu crois que Dieu est un Dieu qui tient ses promesses? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a reçu une promesse de Dieu et qui l'a vue se réaliser? En quelques mots, est-ce que tu pourrais dire?
Oui, au tout début de ma conversion, en fait, quand j'étais jeune, je rêvais de partir en Australie. Et je ne sais pas pourquoi j'avais ça dans mon cœur. Et en fait, au tout début de ma conversion, j'ai reçu que Dieu, il allait m'envoyer en mission en Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'avais aucune idée où était la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et puis alors, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que c'était au nord de l'Australie. Alors, je me suis appuyée sur cette promesse et 20 ans plus tard, le Seigneur m'a envoyée en mission en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Au moment où j'y pensais plus du tout, hein, je m'y attendais plus du tout, j'avais presque oublié, il m'y a envoyée.
Il y aurait un autre témoignage d'une promesse qui a été réalisée. Ouais, tu veux?
Il y a 32 ans, je me suis converti et il y a une promesse, c'est que j'aurai un jour un appartement. Et après 52 ans d'institution, j'ai un appartement depuis cette semaine.
Waouh. Effectivement, et pour Jean-Christophe, pour ceux qui le connaissent, bah, c'est vraiment une victoire, effectivement. Voyez, donc Dieu tient ses promesses. Après, voilà, vous pouvez avoir reçu des promesses dans votre vie, il ne va pas forcément les réaliser comme vous pensez que ça devrait se réaliser, mais Dieu tient ses promesses. Et Marie y croit. Elle croit en la parole, elle croit que cette parole, elle s'accomplit. Elle croit que cette parole s'accomplit pour sa vie par rapport à ce que Dieu vient de lui dire. Mais elle croit aussi que cette parole, elle s'accomplit pour l'humanité. Quand vous allez lire la fin de son cantique, finalement, elle parle de ce que Dieu, il a prévu de faire pour l'humanité, qu'il va renverser les riches et honorer les pauvres. Bon, je le dis avec mes mots. Mais voilà, il va finalement, cette fin du passage, elle dit que Dieu, il va renverser les royaumes humains, il va renverser les royaumes de la terre pour installer son royaume, ce que Israël attend, ce que Israël attend avec toutes les personnes des nations qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ. Elle croit la parole de Genèse à Apocalypse. Et dans quelle mesure nous croyons à la parole? Dans quelle mesure nous croyons que Jésus revient? Dans quelle mesure nous vivons en fonction de ce retour? Dans quelle mesure c'est la parole qui guide mes choix? Est-ce que je prends une décision en allant voir ce que la parole, elle dit. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, moi, si j'ai une décision très importante à prendre par rapport à une question d'argent, est-ce que je vais voir ce que la parole, elle dit sur l'argent ? Si j'ai des problèmes avec la colère et je n'arrive pas à m'en défaire, est-ce que je vais voir ce que la Bible, elle dit sur la colère ? Dans quelle mesure c'est la parole, je m'en nourris et elle guide mes choix ? Et vous voyez, Marie, elle connaît la parole. Elle connaît la parole. Et on le voit quand elle commence à dire le début de son cantique, quand elle dit « Mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit se réjouit en toi. » Mon âme, c'est à partir du verset 46, « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici, désormais, toutes les générations me diront heureuse parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint, et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Pourquoi est-ce que je dis que Marie connaît la parole ? Parce que tout simplement, elle cite ce que Anne, la mère de Samuel, a dit devant Dieu quand justement elle criait à Dieu pour pouvoir tomber enceinte. Et c'est ce qui va se passer. Et elle cite ce que la reconnaissance que Anne a exprimé devant Dieu. Marie, elle s'identifie à Anne. Elle est habitée de la parole. Elle est habitée de la parole. La parole, elle est toujours là, à sa bouche, parce qu'elle s'en nourrit. Dans quelle mesure on se nourrit de la parole ? Dans quelle mesure on cultive cet amour de la parole ? La troisième, c'est que Marie sait qu'elle est sous la grâce de Dieu. Quand elle dit « Car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses », elle exprime qu'elle est sous la grâce de Dieu. Et ce mot « grâce », c'est un mot qui revient dans le texte. C'est vraiment central. Comment l'ange lui dit « Mais salut à toi Marie », en fait c'est « Shalom ». Et tu es sous la grâce de Dieu, toi qui es l'objet de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être sous la grâce de Dieu ? Se vivre sous la grâce de Dieu, savoir que l'on est sous la grâce de Dieu. Parce que bon, souvent, nous, on a des mots comme ça, entre chrétiens, ça peut être ce qu'on appelle du patois de Canaan. Des fois, je me demande, quand on dit « ouais, je suis sous la grâce de Dieu », dans quelle mesure je comprends ce que je dis ? Qu'est-ce que je dis, en fait ? Sa protection, sa bénédiction, sa faveur, quelque chose qu'on ne mérite pas. Effectivement, faveur. Le mot grâce, ça veut dire aussi faveur. Et quand l'ange, il dit à Marie, il la salue, il dit « Salut à toi, la favorisée ». Savoir que je suis sous la grâce de Dieu, c'est savoir que Dieu m'est favorable. Dieu t'est favorable. À partir du moment où les choix que tu prends dans ta vie, ils sont imprégnés de la parole, Dieu t'est favorable. Ça veut dire que voilà, je vais pouvoir avoir des défis dans ma vie, je vais pouvoir avoir des examens, je vais pouvoir avoir... Si je, par exemple, je n'ai pas de travail, dans quelle mesure je vis que je suis quand même sous la faveur de Dieu, que Dieu m'est favorable et je m'attends à un travail en me vivant, en proclamant que je suis sous la faveur de Dieu. Et peut-être que dans mon âme, je ne vais pas le ressentir. Il y a des moments où je vais avoir des coups de boue. Il y a des moments où je vais dire, mais quand est-ce que ça va arriver, quoi ? Est-ce que vraiment Dieu est là ? Mais c'est ce que je ressens. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui est. Et ce qui est, quand j'ai donné ma vie à Christ, c'est que je suis sous la faveur de Dieu. Peu importe ce que je ressens. Et enfin, la dernière, c'est que Marie donne à Dieu la plus grande importance, obstinément. Elle ne lâche pas. Pourquoi obstinément ? Marie, ça signifie obstination. Ça signifie même rébellion. Mais Marie, elle se rebelle contre justement les œuvres des ténèbres. Marie, elle se rebelle contre le fait d'être charnelle. Marie, obstinément, avec obstination. Elle recherche l'esprit. Elle se met à la disposition de l'esprit en orientant son âme vers Dieu, en orientant son âme pour louer Dieu. Mon âme chante la grandeur de Dieu. C'est aussi traduit, mon âme exalte le Seigneur. Mon âme magnifie le Seigneur. Mon âme glorifie le Seigneur. Ça veut dire, mon âme donne la plus grande importance à Dieu. Le plus important, c'est Dieu. Et c'est ce qui dirige ma vie. Le plus important, c'est Dieu et c'est ce qui dirige ma vie. Quoi que je pense et quoi que je ressens, en fait, c'est ça, l'âme qui appuie, quand par notre âme, on appuie sur la prise pour rester connecté au courant. C'est tout dépend de ce que l'on décide de croire et tout dépend de ce que l'on décide de faire, de ce que l'on ressent. Et Marie décide que quoi qu'elle pense et quoi qu'elle ressent, même quand il y a des choses qui la troublent, quand il y a des choses qu'elle ne comprend pas, tout est pour Dieu. Tout est pour Dieu. Et je voudrais vous donner terminer par un petit témoignage. Moi, depuis mon adolescence jusqu'au début de mon mariage, jusqu'à un certain nombre d'années, j'ai été addict à la pornographie. C'était quelque chose qui était compliqué. Et puis, c'était compliqué aussi dans notre mariage, en particulier au début. Et puis, il y a eu un moment dans notre vie chrétienne où on commençait à entendre parler de délivrance. Et du coup, on s'est rendu à un grand rassemblement chrétien où il y avait de la délivrance qui se vivait. Aussi parce que voilà, on en avait marre tous les deux de ce que je vivais, quoi, et de ce poids, et on voulait que voir le Seigneur agir. Et juste avant d'arriver à ce rassemblement, juste avant d'aller à ce rassemblement, la veille, j'avais consommé de la pornographie. Donc je ne vous raconte pas l'état dans lequel j'étais quand je suis arrivé à ce rassemblement. Et à ce rassemblement, il y avait de la louange. Et moi, je me disais, mais je ne peux pas louer, quoi. Je ne peux pas louer. Avec ce que j'ai fait, je ne peux pas louer. Si je me mets à louer, mais je vais être hypocrite. Je vais être hypocrite. Et puis, il y en avait un qui était bien là pour me dire, mais tu te rends compte? Tu te rends compte de ce que tu as fait? Et là, tu voudrais louer? Mais tu ne peux pas louer. Mais arrête, mais tais-toi. Et à un moment, j'ai décidé de non, je vais louer. Et je peux vous dire, je me suis levé et je me suis mis à louer. Et je peux vous dire, c'était compliqué, c'était dur. Mais plus ça a été, plus j'ai senti la présence du Seigneur, malgré ce que j'avais fait. Plus j'ai senti la grâce de Dieu. Plus j'ai senti le pardon de Dieu. Plus j'ai senti que Dieu m'aimait. Et puis au bout du compte, dans ce week-end, j'ai vécu une délivrance. Tout ça pour dire que dans notre âme, on peut ressentir des choses, on peut penser des choses, mais c'est à nous de décider comment on oriente les choses vers cette œuvre de l'esprit, vers cette action de l'esprit. Moi, je vis de plus en plus quelque chose où je peux me sentir découragé. Je me sens découragé, c'est là. Et je sais que si je rentre dans ce découragement, si je commence à me prendre la tête, ça va m'envahir. Mais finalement, plus ça va, plus j'apprends à ce découragement, il est là, je le laisse passer et puis on verra plus tard. Surtout quand on est fatigué physiquement, c'est là qu'on peut être plus facilement découragé. Alors je me dis, j'attends de me reposer et puis voilà. Mais c'est pas ça qui va me définir, vous voyez. Et en fait, les Hébreux, ils parlent de ce lieu de l'esprit en nous, ils parlent du cœur profond. C'est un lieu en nous. Il y a le lieu de l'esprit. Et je peux choisir de vivre les choses depuis ce lieu de l'esprit, même si je ne les ressens pas. Et c'est pour ça que quelqu'un qui va être malade dans son corps et même qui va souffrir, parce qu'il a l'esprit, il va pouvoir relativiser les choses et il va pouvoir, même s'il a mal, il va pouvoir être dans la paix avec le Seigneur. C'est possible. Et c'est la même chose quand on ressent des choses dans notre âme, même où on peut être dans la déprime, on peut être mal. Et il y a quand même ce lieu de l'esprit en nous. Et les amis, pourquoi je vous dis ça? Que vous soyez jeunes, que vous soyez vieux, que vous soyez quelle que soit là, ce qu'on a, on a cet esprit à partir du moment, et cet esprit il a été reconnecté, il est rebranché, il y a du courant à partir du moment où on a donné notre vie à Jésus-Christ. Et si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, vraiment, je t'encourage à le faire ce matin. Mais à partir du moment où on a cela, on est appelé à vivre les choses à partir de l'esprit. Amen. Marie, elle ne confond pas son âme et son esprit. Ouais, elle dit « mon âme » et d'un côté « mon esprit ». Ce n'est pas la même chose, mais elle dispose son âme vers l'esprit, vers l'œuvre de l'esprit. Et finalement, c'est comme ça qu'elle a pu être remplie de cette joie spirituelle. Et ça, ce n'est pas la joie des émotions. C'est une joie de l'esprit. C'est une joie où on est reconnaissant à Dieu. Tout simplement, on est là, on est vivant, on sait qu'on est sous la grâce de Dieu. Et il n'y a rien besoin de plus. On vit la présence de Dieu et il n'y a rien besoin de plus. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. On vit la présence de Dieu et là, on peut entrer même dans l'adoration. Amen. Alors, ce matin, c'est nécessaire, c'est urgent que l'Église, elle vive ce réveil en disposant son âme aussi à s'ouvrir à cette œuvre de l'Esprit en nous, pour rappeler à l'homme qui il est, pour rappeler à l'homme qui il est, en particulier dans un moment où on voit, où on parle d'intelligence artificielle, on voit les machines qui prennent de plus en plus de place, et où on espère même qu'elles pourraient être comme l'homme, certains. Il faut rappeler, c'est quoi l'être humain ? L'être humain, le destin de l'être humain, c'est d'être connecté à Dieu, et c'est de vivre la présence de Dieu. Amen. Je vais m'arrêter là. On va vivre la louange justement dans cette direction-là. Dimanche dernier, je disais, il y a deux choses qui font qu'on peut s'ouvrir à l'œuvre de l'esprit dans la louange et même, du coup, vivre l'adoration. Ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Mais déjà, il y a tout ce que j'ai dit là, il y a la manière dont on dispose notre âme. Pendant la louange, peut-être vous pouvez avoir des pensées qui n'ont rien à voir avec Dieu. Vous pouvez avoir envie de parler avec votre voisin. Vous pouvez avoir des choses qui veulent vous déconnecter de Dieu. Ben, ce qui est important, c'est de ne pas y faire attention. Ou voilà, juste de le laisser passer. On peut se sentir déprimé. Et si tu te sens déprimé, si tu te sens triste, hein, c'est compliqué quand on est déprimé, même quand on est dans la dépression, c'est compliqué de se forcer à. Il ne s'agit pas de se forcer à. Laisse-toi porter, tout simplement. Laisse-toi porter, laisse-toi emmener dans la présence de Dieu. Tu as juste à te dire que Dieu est là, point. Malgré ce que tu ressens, malgré ce que tu vis. Hein, ça, c'est disposer notre âme. Et la deuxième chose, c'est que quand on est dans la louange aussi, il y a un combat spirituel. Parce que Satan ne veut pas qu'on entre dans l'adoration. Et donc, on peut avoir comme ça des choses qui viennent nous troubler. Et là, on peut prendre autorité. Là, on peut prendre autorité. Mais il ne s'agit pas de se crisper. Il s'agit vraiment de faire confiance que Dieu est là et il est tout simplement présent. Quelles que soient les choses qui se passent en moi, il est présent. Et c'est ça qui doit me guider. Amen. Pendant ce temps de louange que je vous invite à vivre dans cette direction, parce que vous voyez, c'est quand on s'ouvre à cette œuvre que là, on peut vivre des guérisons. Que là, Dieu, il agit en nous. Et s'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, laisse-les et toi, viens juste devant Dieu. Et là, Dieu va agir. D'accord ? Dieu va agir. Tu as juste à faire confiance.